La rate hypocondre. Hypocondre.
Sans doute, à la rate. Mon Dieu, des tiraillements quand je ris beaucoup.
Et aussi des obstructions. Obstructions.
Avril 2023.
Beaucoup de bile. Hein.
Sur la scène du théâtre de Carouge, quatre comédiennes et comédiens répètent quelques scènes de la pièce de théâtre « Le médecin suisse-allemand », une pièce écrite au XVIIIe siècle par un vaudois, Samuel Constant.
Le foie !
Sûrement le foie.
Oui, bon, rien de particulier, vous allez me dire. Nous sommes dans un théâtre, des comédiennes et des comédiens jouent, et alors ? Eh bien alors, tout est incroyable dans cette histoire. Cette pièce de théâtre à nouveau sur le devant de la scène après des années de silence. Les acteurs et actrices projetés littéralement dans de véritables décors de théâtre de société de 1777. Des décors historiques. Oui, je vous l'assure, tout est fou dans cette histoire et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bienvenue dans le podcast du Château de Prangin, Musée National Suisse, pour découvrir aujourd'hui l'histoire de ces décors de théâtre de société provenant du Château d'Hauteville, à voir et à revoir dans l'exposition permanente Décors, chef-d'œuvre des collections au musée. Mais revenons à nos moutons. Vous vous souvenez, nous sommes à Carouge, au théâtre, pour assister à la répétition de cette pièce « Le médecin suisse-allemand ».
Il me guérira !
Je m'appelle Gaspard Bösch, et là je joue le médecin suisse-allemand. C'est un peu un médecin, entre guillemets, à la Molière, c'est-à-dire qu'il n'est pas ultra professionnel, c'est un peu un gourou. Il s'endort et il se prend très au sérieux.
Je m'appelle Caroline Cons et pour ma part, j'interprète Madame de Hauteville, qui joue elle-même Madame de Plaignanville.
Hep, 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 vous avez entendu ?
Pour ma part, j'interprète Madame de Hauteville, qui joue elle-même Madame de Plaignanville.
Elle joue Madame d'Hauteville, qui joue Madame de Plaignanville. Mais pourquoi elle joue à jouer ? Eh bien parce que c'est du théâtre de société. Le médecin suisse-allemand est une pièce qui a été donnée au château d'Hauteville. Les acteurs et actrices étaient des gens du château qui jouaient devant une cour d'invités choisie. Alors quand je dis des gens, ça pouvait être des nobles comme des domestiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était ça véritablement le théâtre de société, du théâtre entre soi. Alors, Caroline, cette madame de Plaignanville, qu'est-ce qui lui arrive ?
C'est une patiente angoissée par son hypocondrie. Et ce personnage est donc à la recherche du médecin qui soignera tous ses maux.
Bref, c'est très drôle. Et aux côtés de Caroline Cons et Gaspard Bösch, il y a Sabrina Martin et David Casada. Mais bon, concernant cette histoire de théâtre de société, comment ça fonctionne alors ? Au XVIIIe siècle, on imagine bien Madame de Hauteville jouer Madame de Plaignanville. Mais au XXIe siècle, au théâtre de Carouge, comment ça se goupille cette histoire ?
Alors le metteur en scène, ben, il est là, il nous assiste, il nous raconte que, en fait, en coulisses, moi je suis peut-être le cuisinier de la maison qui aurait un accent suisse-allemand ou qui s'amuserait lors de soirées pour amuser ses amis à faire un accent suisse-allemand. Ils auraient décidé que c'était le médecin, donc c'est pas les professionnels. Mais par contre, ils ont beaucoup de plaisir à jouer. Et c'est souvent la beauté de ce théâtre de société, c'est que par rapport aux acteurs professionnels, ben, ils le font vraiment que par passion.
Pour faire entrer ces comédiennes et comédiens dans des décors historiques qui sont exposés au Musée National, le château de Prangin a eu une idée de génie. Filmer la pièce et l'intégrer dans les vrais décors grâce à des écrans. Comme ça, nous aussi, on peut faire comme au château et voir quelques extraits de la pièce de théâtre autant de fois qu'on veut. Mais sur scène, à Carouge, ça implique quoi ?
Effectivement, le décor, il est fait pour être installé dans un salon.
Jean Liermier, le metteur en scène.
Et qu'il est, somme toute, assez petit, avec des perspectives, donc des panneaux qui marquent la profondeur. Tout ça est fait de toile peinte. Mais en fait, l'ouverture, elle est de 4 mètres, à lointain de 2,50 mètres. Et puis, là où nous, on doit réaliser l'interprétation, c'est à peu près 2,50 mètres sur, on va dire, 90 centimètres. Parce qu'il y a tout un dispositif d'écran qui sont intégrés à l'intérieur du décor pour le moment de l'exposition. Et donc, nous, si on veut qu'on soit raccord dans l'image, dans le décor, à travers les écrans, alors l'espace de jeu est extrêmement restreint. Donc, on a une scène à 2 personnages et puis une scène à 4 personnages. Mais de les faire rentrer des 4 dans les décors du 18e, ça fait vraiment partie intégrante du défi de la répétition, d'arriver à trouver du jeu, à être naturel, sans avoir l'impression d'être complètement engoncé. Ce qui est intéressant d'essayer de travailler avec les acteurs, il y a à la fois l'idée de se dire que c'était joué par des troupes amateurs, donc qui n'était pas professionnel, qui répétait en deux jours, donc il y avait un truc qui était fait un peu à la hâte. Donc il faut essayer de rendre compte aussi de cet aspect-là, et puis de faire en sorte que les acteurs qui jouent n'aient pas l'air mauvais. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'équilibre à trouver sur le style, sur le ton à la fois humoristique, parce qu'il y a des fois un peu des pastiches de Molière. Que voilà, on essaie de s'amuser pour que les deux petits extraits qui sont présentés dans le cadre de l'exposition, on puisse imaginer comme des fantômes qui apparaîtraient comme ça dans le décor, puis pour donner vie, pour que ça ne reste pas simplement un objet de muséographie, mais bien rappeler que c'était fait pour le plaisir des représentations entre amis, entre voisins, encore une fois, dans le plaisir de la représentation théâtrale.
Et c'est parti pour une représentation donc de quelques extraits de cette pièce de théâtre, Le médecin suisse-allemand, à voir dans ces décors de théâtre du XVIIIe siècle au château d'Hauteville, dans l'exposition Décors, chefs-d'œuvre des collections. Et vous savez ce qui est le plus fou dans cette histoire ? C'est que ces décors de 1777, eh bien, ils ont failli ne jamais réapparaître à la surface. Et oui, une aventure qu'on vous raconte en quatre actes. Premier acte, l'acquisition de ces décors. Tout démarre au château d'Hauteville. Hélène Bierry-Thompson, directrice du château de Prongin, un musée national suisse, est commissaire de l'exposition « Décors, chefs-d'œuvre des collections ».
Alors le château d'Hauteville est un endroit magnifique situé sur la commune de Saint-Légier, Blonay, juste au-dessus de Vevey, dans un site remarquable avec vue sur le lac Léman, et qui a été sous le feu des projecteurs ces dernières années, puisque la dernière famille propriétaire, les Grands d'Hauteville, ont dû se résigner à s'en séparer et s'y sont pris en plusieurs étapes. Déjà dans les années 1980, ils ont donné une bonne partie des archives familiales aux archives cantonales vaudoises. Et puis en 2014, ils nous ont approchés au Musée national en nous proposant de nous donner l'ensemble des portraits de famille qui relatent l'histoire de cette famille d'Hauteville sur près de 200 ans. Et en 2015, il y a eu une très grande vente aux enchères, au château même, où malheureusement et heureusement, mais d'abord peut-être malheureusement, tout le contenu a été dispersé. Mais cette vente aux enchères a donné l'occasion à de nombreuses institutions muséales romandes, vaudoises surtout, et à nous, Musée national, d'acheter autant que faire se peut des éléments de ce patrimoine.
Dont ces fameux décors de théâtre.
En 1932, un des membres de la famille d'Hauteville, Frédéric Grand d'Hauteville, a écrit un livre. Et dans cette monographie, il mentionne ces décors de théâtre. Et Marc-Henri Jordan, Béatrice Levy, qui a beaucoup travaillé sur le théâtre de société en Suisse romande, moi et d'autres personnes, nous savions que ces décors avaient été utilisés, ils étaient même reproduits dans ce livre, mais on en avait perdu la trace et nous étions tous convaincus qu'ils avaient disparu. Et pendant les quelques mois où la maison de vente aux enchères préparait le catalogue, ils n'étaient pas là, ces décors. Et c'est, je crois, 2-3 semaines avant la vente, de manière totalement inattendue et surprenante et miraculeuse, que les décors sont réapparus. Ils avaient été stockés dans une sorte de cagibi et c'était tellement sale que les gens de la maison de vente n'avaient même pas imaginé que ça puisse être quelque chose d'intéressant. Et en fait, il s'agissait des décors. Et ils ont été intégrés dans le catalogue de vente à la dernière minute. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, enfin c'est surtout Marc-Henri qui m'a alerté et a dit « il faut absolument garder ça en Suisse ». Et c'est là que le Musée national s'est dit « ok, il faut vraiment qu'on mobilise nos forces et qu'on fasse tout pour les sauvegarder ».
Oui, pour moi c'était vraiment une découverte aussi inespérée comme tout le monde.
Marc-Henri Jordan, historien de l'art, spécialiste de décors de théâtre historique.
Depuis longtemps je connaissais la monographie publiée en 1932, ces deux petites photos noir-blanc qui montraient des détails, et l'auteur nous apprenait qu'ils avaient été peints en 1777 à Lyon par un certain Audibert. Donc quand ils sont réapparus, c'était absolument incroyable, c'était une grande émotion parce que ce sont des choses très rares, vraiment très rares. On a quelques rarissimes exemples, ou ensembles plutôt, sur le plan européen pour le XVIIIe siècle, notamment en Suède, en République tchèque, aussi en France. Mais la plupart du temps, ou presque exclusivement, ce sont des décors d'anciens théâtres de cour et pas des décors de société, de théâtre de société. Il y a un écho désormais entre le château de Prangin et la route des théâtres historiques qui passe par la République tchèque, qui passe par la Suède, la France et l'Italie.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le style de ces décors du XVIIIe siècle ?
Ce sont des décors qui sont tout à fait conformes aux décors types qu'on utilisait pour représenter des comédies, des opéras comiques. On a là un salon, on a un intérieur rustique avec beaucoup de détails très amusants, d'ailleurs présentés avec beaucoup d'exactitude. On a un jardin et une forêt. Et par exemple, le décor du salon reflète tout à fait les intérieurs de cette époque-là, avec des boiseries à la moderne, du dernier cri, on dirait peut-être, avec des sièges qui sont encore un peu Louis XV, et avec une étoffe rayée au mur, qui est celle qu'on voit aussi dans les intérieurs bourgeois à Lyon. Et on sait même qu'au château d'Hauteville, il y avait une chambre qui avait aussi cette étoffe rayée qu'on appelle l'imberline, c'est une technique particulière, comme on la voit sur le décor. Du point de vue matériel, un décor de théâtre, qu'il soit pour une petite scène ou une grande scène, à l'époque, c'est un ensemble qui est constitué de châssis qui sont peints et qui sont disposés à gauche et à droite sur la scène, qui cachent les coulisses et qui sont donc échelonnés dans la profondeur de la scène. Et au fond de la scène, qu'on appelle le lointain, on avait en général une grande toile qui donnait encore une perspective. La perspective pouvait s'étendre au-delà de la limite matérielle de la scène. Et dans le cas d'Hauteville, on a effectivement ces châssis de décor. On a trois plans de châssis, à gauche et à droite. Et au fond, on n'a pas une toile, mais on a également des châssis, deux paires de châssis. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une autre particularité à Hauteville, c'est que ces décors, ces châssis, qui sont en fait une structure, un bâti en bois de résineux recouvert de toile peinte, ils étaient peints des deux côtés.
Pour changer en fonction des pièces, pourquoi ?
En principe, oui, pour autant qu'on ait bien peint au revers l'avers d'un autre décor. Mais là, on voit qu'avec Audibert, il y a eu un peu une mésentente dans l'atelier et on n'a pas strictement une correspondance. Mais on pouvait imaginer tout à fait ça, qu'on pouvait changer de décor en retournant et en replaçant les décors à la vue du spectateur. Mais cette constitution des décors uniquement en châssis avait quand même un autre avantage, c'était le stockage. Puisque ces théâtres qui étaient en fait démontables, une fois les représentations terminées, eh bien on en démontait la structure, on la remisait et les décors retournaient dans la caisse d'origine dans laquelle ils avaient transité de Lyon à Hauteville. Donc on pouvait facilement les plier. Ceux du fond, en fait, sont deux paires de châssis et ils sont articulés comme les feuilles d'un paravent. Cela veut dire aussi que si l'on voulait représenter une pièce sans vouloir monter toute la scène, on pouvait très bien utiliser le fond et les faire tenir, puisqu'ils étaient articulés, ils tenaient debout tout seuls. Donc c'était voilà, à la fois le stockage et l'utilisation en fonction du lieu. On sait qu'à Prangin, grâce au journal du baron Guiguerre, on a donné des représentations dans différents lieux, dans l'appartement d'hiver, dans l'appartement d'été. Et d'ailleurs, là où se trouve aujourd'hui le décor qui a été retenu pour l'exposition permanente, eh bien nous sommes juste au-dessus de la salle à manger de l'appartement d'été et on sait par ce journal qu'on a donné des représentations.
À Prangin, entre 1771 et 1786, a vécu un baron qui s'appelait Louis-François Guiguerre, baron de Prangin, qui a tenu un journal. Et là-dedans, il y a d'innombrables mentions de théâtre, du théâtre lu, du théâtre vu et du théâtre joué à Prangin. Donc on sait qu'il y avait à Prangin vraiment la pratique du théâtre de société de manière très poussée. Louis-François Guiguerre avait fait faire des décors, lui aussi. Un des décors est confié au peintre de la Rive, assisté par un autre peintre, Louis-Auguste Brun. Donc tout ça est très bien documenté dans le journal. On sait que, par exemple, en 1774, ils ont donné ici le misanthrope de Molière. On sait qui a tenu quel rôle. Le baron lui-même tient le rôle d'Alceste. On sait combien de gens assistent à la représentation, etc., etc. Et donc, pour nous, acquérir les décors du théâtre d'Hauteville, c'était une manière de faire vivre, mais peut-être aussi de compenser les décors de Prangin qui ont disparu, hélas. Et là, on s'est dit qu'il y avait quelque chose vraiment à thématiser, que le château de Prangin serait le lieu idéal pour le faire.
Deuxième acte, la restauration de ces décors.
C'est 180 jours de restauration, hein, à 6 heures par jour, donc c'est vraiment très considérable. En fait, ils étaient curieusement en très bon état, globalement, parce qu'ils avaient été rangés. Une fois qu'ils sont rangés et qu'on ne les touche plus, alors il y aura de la poussière, il y aura de la saleté. Mais là où ils risquent le plus, c'est lorsqu'on les manipule. Et donc, effectivement, l'état général, lorsqu'on les a achetés, ils étaient assez sales. Il y avait évidemment des traces d'utilisation. Comme c'est des châssis, c'est surtout là où les montants en bois touchent la toile qui a des marques d'usure, quelques trous. Il y a des dégâts d'eau, d'ailleurs, on les voit encore. C'est ce qu'il y a de plus difficile à restaurer. Et ensuite, il a fallu mettre sur pied un protocole de conservation-restauration. Il y a d'abord eu le nettoyage. Et puis ensuite, il s'est agi vraiment de renforcer la couche picturale, notamment en utilisant une algue, le funori, que les restaurateurs utilisent de plus en plus. Il a fallu aussi consolider les bords, combler les trous. Et là, c'était particulièrement difficile puisque comme les panneaux sont recto verso, on ne peut pas accéder par l'arrière pour réparer un trou. Donc, elles ont dû mettre au point un outil particulier qui leur permettait de pouvoir combler en fait ces déchirures. Et puis, au final, il y a eu des retouches à la gouache.
Troisième acte, la recréation du cadre de scène. Je vous situe le décor. Pour en parler, nous retrouvons Marc-Henri Jourdan et Hélène Bierry-Thompson et nous sommes dans la salle d'exposition au château de Prangin face à ces décors et à ce cadre de scène.
C'était un problème épineux que la présentation sur une scène des décors d'Hauteville, parce qu'on ne peut pas les montrer comme des objets, comme des châssis isolés. C'est vraiment lorsque le décor est planté sur scène, l'expression est restée dans le langage au sens figuré, et que l'on éclaire ces décors, qu'on les présente à l'intérieur d'un cadre, que le décor de scène prend vie et voilà. Et puis, on n'a aucun renseignement en fait sur ce théâtre démontable, où il était placé dans le château. On a juste quelques renseignements sur l'éclairage des châssis, mais rien sur le cadre de scène. Et donc, je me disais, puisqu'il faut un cadre pour faire tenir ce décor visuellement, il faut non seulement réunir une iconographie pour essayer de faire quelque chose de plausible pour l'époque, mais il faut aussi s'adresser à quelqu'un qui maîtrise et qui connaît le décor de scène historique. Et il y a justement à Paris un peintre décorateur qui est Antoine Fontaine, qui a une expérience extraordinaire. Il sent vraiment la perspective, l'atmosphère colorée d'un décor. Et donc a commencé cette collaboration. On a échangé des documents d'époque et lui a conçu les choses. Il est venu voir les décors à Fulton, au centre des collections, pour vraiment voir la matérialité du décor, les tons, le coloris de chaque décor, parce qu'on a beau les photographier, selon l'éclairage, le ton change, il faut le voir. Et il a donc réuni toutes ces données, et comme cela, il a commencé à faire des propositions, et nous avons échangé de multiples fois pour arriver à un cadre de scène qui est plausible, qui ne doit pas non plus voler la vedette au décor lui-même, parce qu'il serait plus coloré ou qu'il serait exécuté plus finement. On devait arriver aussi à un degré de finition. Donc d'où le projet finalement élaboré par Antoine Fontaine et exécuté ici en Suisse par Pascal Yost et
Cyril Montandon.
Voilà.
Et j'aimerais dire qu'Antoine Fontaine est aussi venu à Prangin, bien sûr, parce que c'était important pour lui de voir dans quelle salle seraient montés les décors. Parce que là aussi, il fallait qu'ils comprennent à quelle distance seraient les visiteurs, quelle perspective ils devaient créer pour que tout ça tienne la route. Peut-être encore une chose par rapport au cadre de scène, c'est la couleur aussi qui était importante pour s'harmoniser ensuite avec les châssis eux-mêmes. Et Marc-Henri, tu pourrais peut-être nous dire deux mots aussi du bleu que nous avons choisi pour les murs de la salle et qui fait écho aussi au cadre de scène.
Voilà, bah, cette couleur bleue, c'est en général la couleur dominante des intérieurs de théâtre de l'époque. Aujourd'hui, quand on pense théâtre historique, qu'on va à Paris, qu'on va dans toutes ces salles extraordinaires, c'est le rouge et or. Ça, c'est à partir du 19e siècle. Auparavant, surtout à l'époque de Louis XVI, on est plutôt dans ces bleus, blancs, or. Après, il peut y avoir d'autres couleurs, mais en tout cas pas le rouge et or.
Et pourquoi ? Est-ce que ça symbolisait quelque chose particulièrement, cette couleur ?
Je ne pense pas qu'il y ait une dimension symbolique. Dans les commentaires de l'époque, on dit toujours que l'intérieur de la salle doit mettre en évidence la beauté des femmes.
Dans la même salle où se trouvent les décors de théâtre, sont exposés différents objets provenant du château d'Hauteville, dont de magnifiques costumes de théâtre historiques.
Oui, alors ça c'est très intéressant et on était très heureux au Musée national d'avoir pu, lors de la vente aux enchères, aussi acquérir un certain nombre de costumes. On en a aussi reçu par certains, mais il y en a un encore plus important dans cette salle, c'est l'habit d'Arlequin, qui est le plus ancien qui nous soit parvenu, qui date probablement de la fin du 18e ou du tout début du 19e siècle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est mentionné dans un inventaire du château d'Hauteville au tout début du 19e siècle. Et cet inventaire, qui recense tous les biens dans le château, a une catégorie spéciale costume de théâtre. Il recense, je ne sais plus, je crois, une quarantaine de costumes. Il y a les costumes de femmes, il y a les costumes de paysans. Et puis, il y a des choses très typiques comme l'habit d'Arlequin. Et ces habits d'Arlequin, comme les décors eux-mêmes, sont vraiment très rares. Il en existe deux du XVIIIe siècle à l'Opéra Royal de Suède. Il y en a quelques-uns comme ça en Europe, mais c'est vraiment rare et on est très fiers d'en avoir un. Et l'habit d'Arlequin, il est magnifique parce qu'il est typique de la Commedia dell'arte. Et puis, pour cette Commedia dell'arte, l'idée, c'était d'avoir des personnages immédiatement reconnaissables. Parce que la Commedia dell'arte se jouait dans la rue ou bien dans des intérieurs peu éclairés, donc il fallait tout de suite voir qui est Pantalone, qui est Il Dottore, qui est Arlequin. Et donc on a créé des costumes qui sont immédiatement repérables et reconnaissables. Et dans le cas d'Arlequin, Arlequin c'est un valet, c'est un des zanni, comme les appellent les Italiens. Et son habit bariolé fait de losanges rapportés, eh bien cet habit est censé représenter la pauvreté d'Arlequin, un costume fait de différents bouts qu'on est obligé de rapiécer, et puis aussi montrer ses multiples facettes. C'est un coquin, il est paresseux, un peu menteur, un peu simplet. Enfin voilà, il y a toutes ces facettes-là et tout ça était représenté dans l'habit même. Et ce qui est très beau, c'est qu'il est réutilisé par la famille Grand-Hauteville dans les années 1920 pour une arlequinade. C'est justement une de ces pièces de théâtre dont Arlequin tient le rôle principal, qui s'appelle « Les deux billets ». Et elle est représentée, je ne sais plus si c'est en 1921 ou 22. Et on a des photos où on voit le comédien dans cet habit et dans les décors d'Hauteville.
Quatrième acte, comment redonner vie à ces décors d'Hauteville.
C'est vrai que dès que les décors sont rentrés dans les collections du Musée national, je me suis dit qu'il va falloir les montrer. Mais ça a été un travail de longue haleine. On les a reçus en 2015, on est en 2023. Mais c'est une très belle date anniversaire, j'y reviendrai. Mais je me suis dit, si nous montrons ces décors, même après restauration, même très bien éclairés, ça reste des décors quelque part sans vie, parce qu'un décor théâtre est fait pour être animé. Enfin, il doit recevoir des comédiens, de la musique, un texte, etc. Et du coup, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et donc, j'ai d'abord contacté Jean Liermier, dont j'apprécie beaucoup le travail au théâtre de Carouge, qui s'est immédiatement montré intéressé. Je lui en suis très reconnaissante. Et puis ensuite, on a aussi réfléchi avec nos scénographes, Atelier Hoy, pour se dire, mais oui, c'est bien joli, on va avoir des comédiens, mais ils ne vont pas pouvoir jouer sur cette scène, et s'ils le jouent, ça ne serait qu'une fois. Enfin, et donc, on a fait appel aux nouvelles technologies, et là, on a eu recours à des spécialistes de ce qu'on appelle le Media and Interaction Design, des gens formés à l'ECAL, et qui, eux, sont finalement venus avec l'idée d'avoir des écrans qui sont cachés derrière les châssis, qui, à la demande du public, donc le public pourra lui-même actionner cela, et s'installer sur une banquette, comme s'il était au château d'Hauteville. Et là, les écrans se mettent en place et évidemment, c'est dans les écrans qu'on va voir les comédiens. À tout moment, on aura l'impression d'être dans le décor du théâtre d'Hauteville. Donc c'est une prouesse technologique. Et là, je peux vous confirmer que c'est unique, parce que c'est fait spécialement pour nous ici.
Et vous disiez, c'est une date anniversaire.
Eh bien oui, je me suis rendu compte, alors un peu par hasard, mais je suis quand même très fière du hasard qui fait bien les choses. Parce qu'en fait, la dernière fois que les décors du théâtre d'Hauteville ont été utilisés, c'était en 1923, pour la dernière saison théâtrale de Frédéric Grand d'Hauteville. Et en fait, nous sommes en 2023 et ils vont de nouveau être utilisés. Et je trouve ça très beau. Et c'est aussi pour ça que je voulais tellement les animer, les faire vivre, leur donner une pièce de théâtre pour être dans la continuité de ce qu'ont fait les familles qui se sont succédées au théâtre d'Hauteville. Et finalement, ce que nous faisons là n'est qu'une énième saison théâtrale, finalement. C'est peut-être la dernière, mais elle va être longue.
Et pourquoi vous avez choisi cette pièce de théâtre, Le médecin suisse-allemand ?
Alors, je pense qu'il faut peut-être juste encore expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, qu'à Hauteville, il va y avoir trois moments importants au cours du temps où les décors sont utilisés. C'est dans les années 1770-1780, lorsqu'ils arrivent vers 1800. Ensuite, il y a de nouveau une période au début du 19e siècle, lorsque le château d'Hauteville est vraiment un haut lieu de la mondanité, de la sociabilité. Il y a Joséphine de Beauharnais, par exemple, qui vient en visite, la grande duchesse de Russie. Donc, c'est vraiment un lieu où il faut aller. Là, de nouveau, on va sortir les décors. Et puis, ensuite, il y a une longue période où on imagine qu'ils ont dû reposer sagement dans les caves ou dans les combles. Et dans les années 1920, il y a une résurrection des décors grâce à Frederick Sears Grand d'Hauteville. Et lui va lancer trois saisons théâtrales. Et de ces trois saisons théâtrales, on a énormément de documents d'archives, dont des photos. Parce que pour chaque saison, ils ont créé des albums de photos. Il y a le programme qui est donné, on sait exactement ce qui était joué. Et c'est vraiment extraordinaire de regarder ces photos, de voir les gens jouer des pièces et dans les décors que nous avons maintenant ici à Prangin. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, Le médecin suisse-allemand est une pièce qui est choisie par Frédéric Grand d'Hauteville en 1921 pour sa première saison théâtrale. Il l'a choisie avec d'autres pièces du XVIIIe siècle. Et puis, cette pièce, elle est vraiment intéressante parce que d'une part, c'est une des très rares pièces vaudoises qui a été imprimée au XVIIIe siècle. Elle a été écrite par Samuel Constant. Et puis, elle s'inspire d'un personnage réel, ce fameux médecin suisse-allemand qui est Michel Schuppach, qui a vraiment existé. On l'appelait le médecin des montagnes, qui avait effectivement fait une formation de chirurgien dans les années 1740 et qui ensuite installe une sorte de cabinet à Langnau dans l'Emmental. Et son cabinet va être fréquenté par toutes sortes de personnes, mais y compris des célébrités. Goethe, par exemple, va lui rendre visite. Et Constant, lorsqu'il écrit sa pièce, eh bien, se moque de ce Michel Schuppach. Il en fait une sorte de charlatan, un peu grotesque, un peu simple d'esprit, qui a un très gros accent allemand, bien sûr, et qui a épousé une femme très vénale, qui ne s'intéresse qu'à faire de l'argent sur le dos des patients. Mais ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, c'est qu'en fait, j'ai découvert, en faisant un peu de recherche, qu'il y a un lien avec Prangin. Dans les années 1770, il y a un couple, le couple Tourton, qui vient régulièrement en visite ici. Et elle est amie de la famille Canac à Hauteville. Elle leur rend visite à plusieurs reprises. Mais elle va aussi se faire soigner chez Michel de Schuppach. C'est le journal qui nous le dit. Donc non seulement elle connaît Hauteville, la famille Hauteville, non seulement elle va à Langnau, mais en plus elle participe aussi aux pièces de théâtre qui sont données à Prangin à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est incroyable, toute cette coïncidence, on joue les mêmes pièces, on va voir le même médecin, on est en relation. Et du coup, ça nous paraissait une évidence qu'il fallait montrer des scènes du médecin suisse-allemand.
Merci beaucoup Hélène, vous aviez quelque chose à rajouter Marc-Henri ?
Je suis très ému qu'on ait retrouvé ces décors, et qu'après plusieurs années, eh bien, ils reprennent vie, justement. Je ne l'aurais pas imaginé, je dois dire, lorsque j'avais ouvert pour la première fois le livre de Frédéric Grandotteville et vu ces petites photos qui m'intriguaient énormément.
Et ça, c'était en ?
C'était déjà dans les années 90 que j'avais feuilleté par hasard ce livre, qui il faut dire qu'il était publié à très peu d'exemplaires, il était très peu diffusé, et ça explique pourquoi, finalement, aucun chercheur étranger n'est venu en Suisse romande demander où ont passé les décors du théâtre d'Hauteville. C'était resté confidentiel.
Les décors du théâtre d'Hauteville et des extraits de la pièce de théâtre Le médecin suisse-allemand de Samuel Constant sont donc à voir et à revoir, maintenant que vous avez toute cette histoire en tête, dans l'exposition permanente Décors, chefs-d'œuvre des collections au château de Prangin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette aventure et à très bientôt dans le podcast du Château de Prangin, Musée national suisse.